Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime.
Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime.
Merci de retour avec nous pour un nouvel épisode.
Vous le savez que ça nous fait tellement plaisir de vous revoir au rendez-vous. Mais là, on a besoin de vous les amis, parce que vous êtes tellement nombreux à nous écouter à chaque semaine et ça nous fait grand plaisir bien évidemment, mais... vous êtes très peu à nous laisser des notes sur Apple, sur Spotify. Donc là, prends une petite pause de ton écoute, prends le temps d'aller nous donner une petite note Apple, Spotify, s'il vous plaît!
5 étoiles, s'il vous plaît! Avant de continuer, généralement, on fait pas de moment What the fuck la semaine et on passe juste directement au cocktail et au cas, mais on a un annoncement assez important à faire et je vais laisser Jess le faire. Si jamais, Jess, tu veux que je prenne le dessus, je peux le faire.
Tu vois-tu, je pense que je vais te laisser y aller, puis je vais juste ponctuer de petits... je vais ponctuer, je vais rajouter mon petit grain de sel quand je veux, mais ouais, je pense que je vais te laisser le verbaliser.
Dans les dernières semaines, ça a été extrêmement difficile, spécialement pour Jess, parce qu'on a su que notre mascotte principale, notre première mascotte, Hagrid, Titi, le chien de Jess, était atteint d'un cancer assez grave. Et finalement, c'était rendu trop loin. Il souffrait énormément et Jess a dû prendre la décision extrêmement difficile pour le bien-être de son bébé de l'euthanasier. Donc, Titi n'est plus avec nous. Il nous a quittés. C'est quelque chose de très, très, très difficile en ce moment qui se passe. C'est pour ça que Jess a décidé de prendre un peu de recul. Et je trouve qu'elle fait vraiment bien. Comme on dit souvent sur Crime et Cocktail, c'est important de prendre soin de nous, notre santé mentale, puis de prendre du recul quand on sent qu'on en a besoin. Et tu sais, si jamais Jess, dans les prochains temps, elle en a besoin aussi, ben soyez pas surpris. Puis surtout, tu sais, faites juste y envoyer de l'amour si jamais ça l'arrive. Mais c'est ça. Merci Titi pour tout ce que tu nous as donné, pour tous ces petits jappements et cette participation-là pendant Crime et Cocktail. Il a été là avec nous pour nos premiers épisodes et je manque de mots moi aussi, c'est des souvenirs qu'on va en fait et qu'on va chérir à jamais. Et c'est ça, c'est le moment que je voulais prendre avant de continuer l'épisode. Parce que on le dit tout le temps, Crime et Cocktail, ce qui est important pour nous, c'est d'être franche, c'est d'être authentique et c'est pour ça qu'on voulait pas vous laisser trop dans le brouillard longtemps.
Donc, comme vous avez pu le comprendre, c'est un peu difficile pour moi d'en parler encore parce que ça vient d'arriver, mais je suis contente d'être là, je suis contente d'être sur le podcast et comme Noémie a dit, c'est une partenaire de travail idéale et elle se porte volontaire comme tribu pour prendre en charge notre bébé qui est Crime et Cocktail lorsque la perte de mon autre bébé est trop dure à porter. Merci pour votre patience de l'épisode de la semaine dernière, puis merci pour votre patience à venir si jamais c'est nécessaire. Je sais que vous allez m'offrir de la grâce comme vous avez toujours fait, puis on est vraiment content de vous avoir, et sachez que Crime et Cocktail, c'est quelque chose qui fait énormément de bien, et comme Noémie a dit, Hagrid était une grande partie du podcast, parce que, toutes mes recherches étaient faites collées avec bébé Hagrid, donc on lui dit merci pour tout.
Merci pour tout, et comme Severus Rogue l'a si bien dit dans Harry Potter, à jamais. Pour rester dans la thématique d'Harry Potter, comme Dumbledore l'a si bien dit, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière et c'est ce que Jess a fait. Et il y en a un petit nouveau dans la famille de Crime et Cocktail. Jess, tu veux-tu en parler?
Ouais, on va passer de quelque chose d'assez tragique à quelque chose d'assez magique. Le Cat Distribution System a distribué. Pour ceux qui connaissent pas ce principe-là, c'est une croyance TikTok qui veut que lorsque tu as besoin d'un chaton dans ta vie, il arrive au bon moment. Et c'est exactement ça qui nous est arrivé. Donc, rendez-vous sur la page Instagram de Crime et Cocktail pour pouvoir aller voir la petite bête de Gandalf, le nouveau petit chaton qu'on a adopté, mon épouse et moi. On se sentait vraiment pas prête à redonner de l'amour à un autre chien. C'était notre premier chien, c'était comme un premier amour, si on veut. C'est comme notre premier enfant aussi. Mais on avait un gros vide dans la maison. Même avec Léo, même avec Miss McGonagall, qu'est-ce que vous voulez? On est des lesbiennes, on est des folles à chat. Fait qu'on est allé s'en chercher un autre petit bébé quand on a vu l'occasion se présenter à nous. On s'est pas battu, puis on l'a ramené à la maison, puis... Sincèrement, je vais vous ériger une liste de tout ce que ce chat fait, que Hagrid faisait, mais je n'ai aucun doute, c'est Hagrid qui me l'a envoyé, ça c'est clair.
Désolée, j'étais en train de jouer justement avec le chat, et le chat vient juste de sauter sur l'ordinateur. C'est un bébé chat, hein, fait qu'on va devoir s'adapter un petit peu à le fait qu'il y a de l'énergie. Bref, oui, moi aussi, j'ai vraiment l'impression que c'est Hagrid qui nous l'a envoyé, puis que c'est Hagrid réincarné en chat. Bref, pour digérer toute cette tornade d'émotions, est-ce que Jess, ça te tente de boire un bon cocktail?
Écoute, boire un cocktail, oui. Boire un cocktail à la citrouille quand la température commence à se rafraîchir, encore plus oui.
Pour faire suite à ce que Jess dit, oui, en l'honneur d'un des breuvages les plus populaires de l'automne, on boit un martini à la tarte à la citrouille. Vous allez avoir besoin de 2 onces de vodka, 1 cuillère à table de sucre granulé mélangé à 1 cuillère à table de cannelle, 1 cuillère à table de sirop d'érable, 3 cuillères à table de half and half, c'est une mixture moitié lait, moitié crème, 1 cuillère et demie à table de purée de citrouille et pour finir, vous allez garnir le tout de crème fouettée, normale ou à la coconut, allez-y comme vous le sentez. Avec vos ingrédients, vous allez devoir tremper le rebord de votre verre dans du jus de citron avant de le tremper à nouveau dans du sucre granulé en guise de décoration. Dans un shaker rempli de glace, vous allez mettre le half and half, la vodka, le sirop d'érable, la purée de citrouille et qu'est-ce qu'on va faire, Jess?
Shake, shake, shake!
Ensuite, vous allez verser le contenu du shaker dans le verre déjà décoré et garnir le tout d'une branche de cannelle et de la crème fouettée. That's it, that's all. Basketball. Moi puis Jess, on se tient trop ensemble. Là. C'est rendu que je parle comme elle, puis elle parle comme moi, elle aussi.
La vraie question est, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont commencé à adopter le that's it, that's all basketball dans votre vie de tous les jours? Si oui, influence réussie.
Pour ma note du cocktail, surprenamment, j'aime pas tant que ça les choses d'automne. Pour une fille qui tripe sur l'automne puis qui commence à décorer pour l'Halloween le 13 août, c'est une tradition un petit peu bizarre que j'ai. Je tripe pas tant sur la cannelle ou les saveurs d'automne, mais je suis agréablement surprise par ce cocktail-là. Mais on dirait que je reste tout le temps dans les mêmes notes ces temps-ci. Mais je suis pas une fan de lait. D'habitude, je bois pas de lait non plus. Je sais pas s'il y aurait une façon de faire le cocktail sans le lait, mais dans le fond, le remplacer par du lait de soya ou de je sais pas trop quoi. Faudrait étudier la question. Mais je vais donner quand même un bon 7 sur 10 cette semaine.
Je te seconde entièrement. Moi aussi, je suis pas trop fan de lait. Puis on dirait que j'aurais rajouté un shot d'espresso à l'intérieur. Tu sais, ça aurait fait comme un martini espresso à la citrouille. Je pense que ça aurait vraiment été comme la clé pour que ce cocktail-là soit exceptionnel. Donc voilà, moi je vais donner aussi un 7.5 parce que ça se boit super bien, c'est à la citrouille, c'est réconfortant. Mais j'aurais pris un petit kick de caféine pour faire vraiment espresso martini à citrouille. T'sais, ça aurait été ça le vibe, je plus.
Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, Jess, mais il manque juste un mot.
Cheers!
Chin, chin!
Je pense que je vous apprends rien parce que vous avez lu dans le titre que c'est la saison de la Vierge! Célébrée du 23 août au 22 septembre. Hé, chicane ou pas, là, je sais qu'on est pas mal limite, mais, écoute-le quand même parce que c'est assez intéressant, tu vas voir. Mais revenons-en à la Vierge. La Vierge, c'est un signe extrêmement analytique, vraiment un très bon communicateur. Dans un groupe d'amis, là, la Vierge, c'est comme le genre de personne à se tenir souvent plus à l'écart, mais, qui écoute chacun des mots prononcés, qui ne manque aucun petit détail. En fait, il n'y a jamais aucun détail qui échappe à l'œil d'une Vierge. Richard Angelo, il est né le 29 août 1962 à Long Island, dans les États-Unis. Né d'une famille vraiment aimante, Richard Angelo, il grandit dans la ouate, comme on dit au Québec. Là. En gros, là, c'est un enfant qui manque de rien. Ses parents, c'était de bons chrétiens, de bons citoyens, et ben, il était respecté de tous les autres co-citoyens. La pomme, elle a pas tombé trop loin de l'arbre, et Robert Angelo, il est tout le temps comparé à un petit ange. Il est studieux, il a les priorités aux bonnes places, il est proche des membres de sa famille. Il y a un seul petit indicateur qui pourrait peut-être dire qu'éventuellement, il y a quelque chose qui cloche chez Robert Angelo. C'est qu'il a pas envie d'avoir des amis, sauf ses enseignants, sa famille, il entretient aucun lien social. Personne, sauf sa famille et ses enseignants, il aime pas ça. Plus les années avancent, plus ça se concrétise, là, c'est un loup solitaire. Lorsque tous les jeunes adolescents de son âge commencent à, bon, vouloir expérimenter, à se faire des amis, à se faire des amoureux, des amoureuses, ben lui, il développe plutôt un franc talent pour le chant et il va rejoindre la chorale de son église et même là, ben, il va pas tisser de lien avec aucun de ses camarades de chorale. C'est en 1980, toujours aussi solitaire, qu'il va décider de ce qu'il veut faire de sa vie. Il veut devenir infirmier. Il va s'inscrire à l'université et il va réussir ses cours haut la main. Il va décrocher plusieurs emplois dans différents établissements de santé et un jour, il va se faire offrir le rôle dont il rêve depuis toujours. Dans le métier d'infirmier, il se sent tellement valorisé, lui qui a toujours été un peu sous l'ombre. Il se sent enfin vu, gratifié, apprécié, et plus il reçoit des compliments, plus il en a besoin. Lui, il a toujours été studieux, mais il devient extrêmement, extrêmement sérieux dans ses études, super carriériste, et son but premier, c'est toujours de se démarquer, d'être le meilleur des employés, le meilleur des camarades de classe, il veut juste être le top 1 des infirmiers. Il y a 26 ans quand ses parents vont décider de quitter New York pour aller déménager sous le soleil de la Floride parce que eux, bon, ils viennent de devenir des retraités. Et ben lui, il décide de rester à New York pour sa carrière malgré le fait qu'il se sent extrêmement seul parce que, on se le rappelle, il n'y a pas d'amis, il n'y a que sa famille alentour de lui. Éventuellement, il va trouver le dit emploi de rêve au Good Samaritan Medical Center de Long Island et on est en 1987 lorsqu'il se fait offrir un poste. Pendant quelques mois, il n'y a rien à signaler, outre le fait que c'est un employé modèle et qui, justement, il essaie encore toujours de se hisser au top des meilleurs employés. Donc, il est poli avec ses collègues, il est poli avec ses patrons, les patients semblent apprécier. Sauf que, un moment donné, il y a des collègues qui commencent à remarquer qu'il y a une forte hausse du taux de décès à leur centre hospitalier et que, ben drôlement, les patients semblent souvent perdre la vie durant le corps de travail de Richard Angelo. Au total, il y a 25 patients qui vont mourir dans des circonstances extrêmement nébuleuses en l'espace de 6 semaines. Et tous ces décès-là ont commencé après l'arrivée de Richard dans le centre. Et bien évidemment, tous les patients qui sont décédés avaient été traités ou examinés par Richard. C'est juste quand des patients vont commencer à se plaindre à des membres de leur famille à eux que, ben, on va commencer à poser un regard différent sur l'infirmier de renommée. Est-ce qu'il était si innocent qu'on peut le penser? Plainte après plainte, doute après doute, ça fait juste continuer de s'accumuler sur les épaules de Richard. Et la rumeur voulant que, ben, c'est lui qui assassine ses patients, ça va se rendre aux oreilles des autorités policières et il va avoir une enquête qui va être officiellement ouverte. C'est seulement lorsque Richard va injecter du chlorure de potassium, qui est un composé chimique minéral de formule KCI, qui est indiqué dans le traitement des hypokaliémies, de déséquilibre électrolyte et permet l'apport de potassium dans le cadre d'une nutrition parentérale dans un patient qui rapporte l'injection à un autre membre du personnel. Ouh, cela était dur la phrase, excusez, on s'entend que la description du chlorure de potassium, c'était un copier-coller de Wikipédia et non mes mots intelligents à moi. Donc, on répète, là, il va injecter le chlorure de potassium dans un patient. Ce patient-là, il dit « Hey, je me suis fait injecter de quoi par cet infirmier-là et je ne me sens pas bien. » Et bien là, les personnels ont plus aucun doute. Clairement, Robert, il fait quelque chose de pas correct avec ses patients. On va commencer par tester le sang du patient pour s'assurer que ben il s'est bel et bien fait injecter quelque chose et ben le test va être positif. Il y a une grande présence de la drogue dans le sang du patient. Là, c'est évident, là, c'est Richard Angelo qui injecte du chlorure de potassium dans ses patients. En octobre 1987, il y a 3 patients qui ont été traités par Richard qui vont décéder de manière consécutive et là, ben, il n'y a plus de doute, c'est vraiment l'infirmier qui injecte des doses mortelles dans ses patients. Mais pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Puis aussi, pourquoi est-ce que les doutes ont duré autant longtemps? À plusieurs reprises, ils ont eu des preuves comme quoi Richard était la personne qui injectait le chlorure de potassium. Donc, quand il était certain, après avoir eu les résultats du patient, pourquoi est-ce qu'il a continué à exercer? En tout cas, on n'aura jamais la réponse à cette question-là. Ce qu'on sait, c'est que Richard y affirmait qu'il n'a jamais intentionnellement assassiné qui que ce soit en injectant le chlorure de potassium. Il dit qu'il voulait seulement, ouvre la citation, les affaiblir afin de pouvoir les sauver et passer pour un héros. Fin de la citation. Lors d'une entrevue exclusive, il va aussi dire, ouvre la citation, je voulais créer une insuffisance respiratoire ou un autre problème chez mes patients qui auraient été sauvés grâce à mon intervention parce que je n'avais aucune confiance en moi et que je me sentais inutile. Fin de la citation. On va officiellement lui passer les menottes le 14 octobre 1987 et il va pas attendre longtemps avant de passer aux aveux et d'affirmer que oui, il y a 25 patients qui vont avoir perdu la vie à cause des injections de Richard. Il affirme par contre en avoir injecté plus que 25 et que ben c'était seulement 25 qui avaient décédé des complications, donc lui il affirme qu'il a injecté 30 patients. Moi j'en doute, moi je pense qu'il a dû injecter comme 50-60 patients, c'est clair que s'il y en a 25 qui sont décédés, ça se peut pas qu'il en ait juste injecté 30. Anyway, ça c'est mon avis personnel et je n'ai jamais fait d'études en médecine, donc prenez-le avec un grain de sel. Malgré le fait qu'il affirme avoir assassiné 25 personnes, il va être reconnu coupable seulement pour 5 de ces meurtres-là et il va obtenir une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 61 ans d'emprisonnement et il va être éligible à une demande de libération conditionnelle en 2049 et il va avoir 87 ans à ce moment-là. Et encore aujourd'hui, au moment où vous écoutez cet épisode, il sert sa sentence dans une prison de l'État du New Jersey. Il y a 25 personnes innocentes qui étaient remplies de confiance envers le personnel soignant qui ont été assassinées pour nourrir l'ego de Richard Angelo. Richard Angelo qui, plus tard, va obtenir le surnom « l'ange de la mort ». Justement, l'ange de la mort a dit plus tard, ouvre la station, « j'ai tout fait ça pour que l'équipe me respecte, j'ai leur idiot maintenant ». Fin de la citation. Un infirmier qui tue au nom de son ego, un mari qui s'associe à sa conjointe afin d'assassiner des femmes innocentes, dont sa sœur. Décidément, les tueurs vierges qu'on a présentés dans ce podcast sont franchement tordus, puis on va juste dire qu'aujourd'hui, on sortira pas des sentiers battus. On va établir un trauma avertissement avant le début de cet épisode. Ça va être un des épisodes les plus graphiques qu'on a jamais raconté sur ce podcast. Sincèrement, âme sensible, s'abstenir. On va parler d'abus psychologiques, de pédophilie et de meurtre. Vraiment choquant et genre vraiment, vraiment, vraiment graphique. Je vais pas le dire assez, c'est vraiment graphique. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour nos âmes sensibles. Sinon, nos sources pour le cas d'aujourd'hui sont Murderpedia, TheFamousPeople.com, Oxygen.com, ABC Australia, The Sydney Morning Herald, The Age, Wikipédia et YouTube.
John Bunting est né le 4 septembre 1966 à Inala, un quartier situé à Brisbane dans l'État du Queensland en Australie. Connu pour sa diversité culturelle, elle abrite une communauté variée avec des populations d'origines différentes. Le quartier est souvent associé à des projets de développement communautaire et à des initiatives visant à renforcer l'inclusion sociale. Ensuite, sa famille a déménagé à Adélaïde, en Australie, où il y a grandi. Adélaïde, c'est la capitale de l'État d'Australie méridionale. Elle est souvent célébrée pour son ambiance détendue et ses festivals vivants tels que le célèbre festival d'Adélaïde et le Fringe. Connu pour ses larges boulevards bordés de jardins et ses plages pittoresques le long de la côte, Adélaïde allie charme provincial et dynamisme culturel. La ville est également renommée pour ses vignobles environnants, notamment dans la célèbre région viticole de la Barossa Valley, offrant des expériences gastronomiques exceptionnelles. Pour en revenir à quelque chose d'un peu moins détendu, John Bunting a grandi dans un environnement familial extrêmement troublé. Bunting a commencé sa vie sous de mauvais auspices, étant né avec une anosmie congénitale, une condition rare qui l'a privé du sens de l'odorat dès la naissance. Cette déficience sensorielle-là a marqué le début d'une existence déjà difficile, exacerbant les défis émotionnels et sociaux auxquels il a été confronté tout au long de son développement. Cette condition-là est généralement permanente et les personnes qui en sont atteintes ne développent pas de sens de l'odorat au fil du temps. L'anosmie congénitale est causée par un développement anormal des structures du nez et du cerveau responsables de l'olfaction et il n'existe pas de traitement pour restaurer le sens de l'odorat dans de tels cas. Pour en revenir à Bunting, il a été élevé par sa mère, Elizabeth, qui a eu des relations tumultueuses et conflictuelles avec les membres de la famille et a été décrite comme quelqu'un ayant une personnalité dominante et autoritaire en plus d'avoir des problèmes mentaux. Le père de John, James Bunting, était absent de la vie de son fils dès un jeune âge. Même avant que John puisse souffler les bougies de son 10e anniversaire, il avait abandonné sa famille. Les raisons exactes du départ de James Bunting ne sont pas bien précisées dans les récits disponibles. Par contre, ce que l'on sait, c'est que cette absence a eu un impact significatif sur le développement émotionnel de Bunting. James Bunting, le père de famille, a quitté à un moment où la mère de Bunting était déjà en proie à des difficultés personnelles et émotionnelles, ce qui a laissé Bunting sans figure paternelle stable pour lui fournir soutien et direction. Le vide parental causé par cet abandon a été un facteur clé dans le développement de la personnalité et des comportements de John Bunting. Il est souvent sous-entendu que son départ a contribué à une dynamique familiale déjà tendue, exacerbant les difficultés émotionnelles et matérielles auxquelles Elizabeth et ses enfants faisaient face. Pour ce qui est de ses frères et sœurs, on sait que John en avait plusieurs, mais les informations spécifiques sur leur nom et leur âge ne sont pas toujours détaillées dans les sources disponibles. En général, c'est établi qu'il y avait au moins deux frères et sœurs, mais les détails restent flous. Bien que précédemment, j'ai décrit Adélaïde comme une ville agréable, c'est important de noter qu'elle a beaucoup changé depuis l'époque où John Bunting y vivait. Aujourd'hui, elle bénéficie d'une modernisation urbaine, d'une croissance culturelle et d'une amélioration significative des infrastructures. Par contre, à l'époque des années 70-80, Adélaïde était socialement et économiquement défavorisée. L'environnement de l'enfance de Bunting a été marqué par la pauvreté et la criminalité, ce qui a contribué à un climat de violence et de désespoir. Il n'y a pas de preuves solides pour ce que je m'apprête à dire, ni de sources fiables qui confirment ces dires, mais il est connu qu'en 1974, à l'âge de 8 ans, Bunting se serait fait abuser. Des documents obtenus lors d'une étude de l'Université de Radford sur les meurtres montrent que dans son enfance, Bunting aurait été agressé sexuellement et physiquement par le frère aîné d'un ami. Le traumatisme de cette agression aurait conduit à sa haine envers les homosexuels et la raison pour laquelle il a eu envie de prendre les choses en main concernant toute personne qu'il soupçonnait d'être pédophile. Bunting aimait également les armes, la photographie et l'anatomie. À l'école, il a été la cible de harcèlement et de moqueries, ce qui a renforcé son isolement social. Bunting était perçu comme un enfant différent, impliqué dans des conflits physiques avec d'autres enfants à plusieurs reprises, montant des tendances agressives, ce qui l'a poussé à s'éloigner encore plus de ses camarades. Dès son enfance, il avait des comportements problématiques, y compris la torture d'insectes. Bunting aimait brûler les insectes avec de l'acide et aimait aussi torturer d'autres petits animaux. Le tout a été observé par ses camarades et ses enseignants qui ont noté cette fascination morbide pour la violence comme un signe préoccupant de sa personnalité. En plus de tout ça, comme si tout ça n'était pas assez, Bunting avait des résultats scolaires médiocres et a éprouvé des difficultés d'apprentissage. En plus, il était souvent en retard ou absent, ce qui a contribué à son sentiment d'inadéquation et de rejet. C'est sans surprise que Bunting était souvent en désaccord avec l'autorité, ce qui se traduisait par des actes de désobéissance à l'école et à la maison. Dès son adolescence, Bunting s'intéressait à des thèmes violents et sombres, passant du temps à lire des livres d'horreur et à regarder des films violents. On veut pas dire à Crime et Cocktail que regarder des films d'horreur ou de lire des films violents a un quelconque lien avec le fait qu'on va devenir des meurtriers, sinon Jess et moi et beaucoup de gens qui nous écoutent seraient des meurtriers. On essaie juste de vous peindre un peu le portrait de la jeunesse de Bunting. C'est aussi à ce moment-là qu'il a commencé à commettre des vols et d'autres petits délits, cherchant à ressentir un certain contrôle ou pouvoir. À la recherche d'acceptation, il a commencé à se lier avec des groupes marginaux et des individus au comportement déviant, ce qui a renforcé ses tendances violentes. Certains rapports indiquent qu'il affichait des opinions extrêmes sur la race et la violence, ce qui l'a amené à être perçu comme un sympathisant néo-nazi par beaucoup de ses pairs et le monde entier plus tard. Les abus émotionnels subis dans l'enfance de John Bunting ont engendré des troubles de la personnalité, il a développé un manque d'empathie et une vision déformée des relations interpersonnelles. Il a cultivé un profond ressentiment envers la société et ses expériences d'abus et de rejet l'ont conduit à voir les autres comme des cibles potentielles, alimentant ses fantasmes violents. À 22 ans, Bunting travaillait dans un abattoir et aurait parlé de l'abattage des animaux et de combien il aimait ça. En 1991, il a ensuite déménagé dans une maison à Salisbury North, en Australie-Méridionale, et s'est lié d'amitié avec ses voisins Mark Hayden et Robert Wagner. Selon une ou deux sources que j'ai trouvées, Mark Hayden serait né le 4 décembre 1958. Il y a une autre source qui disait qu'il serait peut-être né en juin. Ce qu'on sait, c'est qu'il est né en 1958, mais sinon, les détails précis sur la naissance, l'enfance et l'adolescence de Mark Hayden ne sont pas largement documentés dans les sources publiques. On ne sait pas vraiment grand-chose sur ses premières années de vie et sa personnalité avant son implication dans les meurtres de Snowtown. Je pense pas non plus qu'il mérite qu'on explique en long et en large sa vie avant les atrocités qu'il a commis, donc on va passer à autre chose. Robert Joe Wagner, quant à lui, est né le 28 novembre 1971 à Parramatta, en Nouvelle-Galles du Sud, et a eu une enfance marquée, lui aussi, par l'instabilité, la négligence et les abus. Tout ça a contribué à son isolement social et à sa vulnérabilité face à l'influence de John Bunting. Wagner a quitté l'école tôt et s'est impliqué dans des activités criminelles dès qu'il a quitté l'école. Mais avant de rencontrer Mark Hayden et Robert Wagner, qui deviendront plus tard ses principaux complices dans une série de meurtres complètement terrifiants, comme Jess l'a dit tantôt, John Bunting avait déjà du sang sur les mains. Son premier crime remonte au 31 août 1992, lorsqu'il invite Clinton Trezis, un jeune homme de 20 ans, chez lui pour visiter sa maison à Salisbury. Mais ce qui devait être une simple rencontre entre amis se transforme rapidement en scène d'horreur. Bunting accuse Trezis d'être pédophile et, sans pitié, le frappe à mort avec une pelle dans son propre salon. Avec un cynisme sanglant et fidèle à sa personnalité manipulatrice, il surnomme sa victime « Happy Pants », donc pantalon heureux, si je peux traduire ça comme ça en français. C'est un petit peu bizarre comme traduction. Bref, après avoir éliminé sa victime, comme s'il voulait banaliser l'horreur de son acte, le corps de Trezis ne sera retrouvé que 2 ans plus tard, en août 1994, enterré dans une tombe peu profonde à Lower Light. En 1997, alors que l'affaire Trezis est diffusée dans Australia's Most Wanted, Bunting regarde l'épisode avec James Vlasakis et sa mère, puis se vante, ouvre la citation, « C'est moi qui ai fait ça. » Ferme la citation. James Vlasakis a rencontré John Bunting lorsque ce dernier a commencé à sortir avec sa mère, Elizabeth Harvey. Bunting a emménagé chez eux et Vlasakis, alors adolescent, s'est retrouvé sous l'influence de Bunting qui se montrait charismatique mais extrêmement manipulateur. Bunting avait des opinions radicales, comme j'ai dit plus tôt, contre les pédophiles. En fait, ça, tout le monde en a. C'est juste que pour Bunting, les pédophiles, c'est lui qui décide. Si tu le regardes un petit peu de travers, tu vas être un pédophile puis il va vouloir te tuer. Bref, présenter ses croyances comme une sorte de justice. Vlasakis, venant d'un milieu familial difficile et vulnérable, a été facilement endoctriné. Au fil du temps, il est passé de 5 témoins des discussions de Bunting à un participant actif dans plusieurs meurtres. Question d'être clair et d'assurer la fluidité de l'histoire, je vais résumer rapidement. Mark Hayden, c'était l'organisateur logistique du groupe, aidant à dissimuler les crimes et à gérer les affaires pratiques telles que l'élimination des corps. Robert Wagner, quant à lui, était l'un des plus proches alliés de Bunting, participant activement à plusieurs meurtres et partageant la même haine pour leurs victimes, souvent ciblées pour des raisons liées à des préjugés personnels de Bunting. Enfin, James Vlasakis, le plus jeune membre, a été progressivement entraîné dans la violence du groupe. Son implication a été marquée par la manipulation émotionnelle de Bunting, ce qui l'a conduit à participer à certains meurtres. Ensemble, ils formaient un groupe meurtrier redoutable, chacun jouant un rôle précis dans cette série d'horreurs orchestrée par Bunting.
Ce qu'il faut comprendre d'emblée dans le mode opératoire de John Bunting et de ses disciples de la mort, c'est qu'ils vont toujours sélectionner leurs victimes parmi leurs connaissances. Donc, tous ceux qui ont perdu la vie des mains de ce quatuor de la mort connaissaient leur meurtrier. Là. Amis, famille, connaissances, amis de cœur, personne n'était à l'abri. Ray Allen Peter Davies, il a eu le malheur de rencontrer et de tomber amoureux d'une dénommée Suzanne Allen, qui est l'ex-copine de John Bunting. Ray Allen, il a 26 ans et il est atteint d'un léger retard mental, ce qui l'empêche pas de vivre sa vie pleinement, là, d'avoir des relations, même avoir un emploi, contribuer à la société. C'est un homme excessivement heureux malgré le fait que, oui, il doit dealer sur le quotidien avec cette condition-là. Sa relation avec Suzanne, qui, elle, est âgée de 47 ans, va se terminer de manière assez brutale parce qu'un jour, il y a un des neveux de Suzanne qui va lui rapporter que Ray Allen aurait fait des avances sexuelles au neveu. Bizarrement, Suzanne va prendre la décision de terminer la relation amoureuse avec Ray Allen, mais de quand même rester sa bonne chum de fille. Tout aussi bizarrement, Ray Allen, il a jamais eu de relation sexuelle avec un homme et il a jamais démontré d'intérêt pour la gente masculine. Donc, pourquoi est-ce que ce serait soudainement tourné vers les neveux de Susan? Puis surtout, pourquoi est-ce que celle-ci, elle l'a juste accepté puis elle a décidé de rester son amie? On le saura jamais. En plus de rester son amie, Susan va lui proposer de installer sa caravane sur son terrain. Là. Donc, elle héberge quasiment Ray. Ils sont presque cohabitants. En fait, ils habitent sur le même terrain. C'est juste qu'ils qui ne dorment pas dans le même établissement, si on veut, parce que Ray y habite dans une caravane. Suzanne, c'est le genre de fille qui a l'air de garder des bons contacts avec ses anciens amoureux parce que, elle a encore des bons contacts avec John Bunting. Un jour, elle est en train de parler avec John et puis, John apprend que Ray Allen aurait fait des avances sur des jeunes hommes mineurs et puis, j'ai pas besoin de vous faire de dessin, vous allez comprendre que John Bunting, il saute sur l'occasion pour décider que le sort de Ray Allen est scellé. Il va d'abord gagner la confiance de sa future victime, ce qui se fait assez facilement parce que, Ray Allen n'a aucune raison de se douter de ce que John Bunting trame. John Bunting va l'inviter à célébrer le réveillon de Noël le soir du 25 décembre 1996 et, Ryan Allen Peter Davies y accepte sans se douter que son meurtre est planifié. La soirée bat son plein jusqu'au moment où la femme de John Bunting, sous ses ordres, va empoigner un couteau de cuisine et planter le dit couteau dans la jambe de Ray Allen. Le pauvre Ray, il a même pas le temps de réagir avant que Robert Wagner arrive derrière lui et enroule autour de son cou un câble de démarrage. Puisque Ray va perdre connaissance suite à l'étranglement, ils vont tous assumer qu'il est bel et bien décédé, alors ils vont se rendre jusqu'à sa caravane, ils vont vider l'entièreté de la chose, ils vont prendre sous leur possession tous les biens de valeur de Ray. Et il y a la fille de Susan qui les voit faire le tout et qui se pose beaucoup de questions parce que Susan, elle est là, puis elle les aide à le faire. Ils vont attacher ce qu'ils pensent être la dépouille de Ray Allen sur le banc arrière d'une voiture et ils vont rouler pendant 1h30 avant de trouver une maison abandonnée et ils vont s'y installer et déplacer Ryan Allen jusque dans la baignoire et c'est à ce moment-là qu'ils vont réaliser que il respire encore. Ils vont donc décrocher le poteau de métal sur lequel était accroché le rideau de douche avant de l'enfoncer dans l'anus de Ray Allen. Il va mourir comme ça, seul, complètement trahi et surtout empalé par un poteau après avoir agonisé pendant des heures. Pour ajouter l'insulte à l'injure, Joe Bunting il va voler toutes ses cartes bancaires et il va les utiliser pendant des mois. Il va enterrer vraiment grossièrement son corps en le recouvrant comme d'un peu de ciment, de grosses pierres, de terre ferme et il fait ça à l'arrière de sa résidence à Salisbury. Peu de temps après le meurtre de Ray Allen, la relation entre John Bunting et Susan Allan commence à se détériorer dans un élan de rage après une querelle suspectée, parce que c'est pas confirmé qu'ils se sont chicanés, c'est ce que les autorités assument. John Bunting aurait assassiné Susan, et ça c'est aussi une assommation faite par les policiers. Les circonstances entourant l'assassinat de Susan sont vraiment floues, parce que justement John Bunting affirme qu'elle est décédée d'une crise cardiaque durant la chicane. Le résultat est le même, le John Bunting, il va froidement découper la dépouille de Susan Allan et il va l'emballer dans 11 sacs de plastique différents avant d'enterrer derrière sa résidence Salisbury aussi. Évidemment, il va pas déclarer la disparition ni le décès de Susan aux autorités, il va continuer d'encaisser ses chèques de pension. Il va encaisser un total de 17 000 $, ce qui aujourd'hui vaudrait 41 000 $. Malgré toutes les difficultés qui peuvent venir avec le fait de grandir dans un corps qui ne nous appartient pas, le plus grand drame de la vie de Michelle Gardiner, ça va avoir été d'être la cousine de l'épouse de Robert Wagner. Michelle, elle a 19 ans et c'est fièrement une femme qui a grandi toute sa vie dans le mauvais corps. Malgré sa récente transition, il y a plusieurs personnes de très mauvaise foi qui vont continuer de référer à Michelle par son nom de naissance et de la mégenrer intentionnellement. John Bunting, évidemment, fait partie de ces gens-là. Il refuse de reconnaître Michelle Gardiner comme la femme qu'elle est et il la qualifie du, ouvre la citation, plus gros des homos, fin de la citation. Un jour, Wagner va attirer Michelle Gardiner sous le pont Moré avec ses acolytes. Ils vont trouver une cabane abandonnée et ils vont y torturer Michelle pendant des heures. Ils vont l'étrangler et chaque fois qu'elle tombe et qu'elle perd connaissance, ils vont la forcer à se relever sur ses deux pieds, le tout pour recommencer. Un moment donné, elle s'est juste pas relevée. Elle est morte comme ça, mégenrée, torturée, seule, ostracisée et probablement complètement effrayée. Michelle Gardiner, elle va continuer de se faire mégenrer, même dans la mort. Dans l'un des articles qu'on a consulté, on réfère à la victime ainsi. Ouvre la citation, Michelle Gardiner, a.k.a. Et là, on nomme le nom sous lequel elle est née. Fin de la citation. A.k.a, c'est also known as, donc aussi connu comme. Non, Michelle Gardiner n'était pas connue comme rien d'autre que Michelle Gardiner, point à la ligne. John Bunting et son quatuor de la mort vont orchestrer un cambriolage chez les parents de Michelle pour implanter dans la tête de tous les membres de sa famille qu'elle s'est enfuie avec les biens volés pour pouvoir se payer une vaginoplastie. Pour les membres de la famille, c'est assez difficile de pas y croire, considérant que y en a beaucoup qui sont réticents face à la récente transition de Michelle. John Bunting, avec son excuse, il fait d'une pierre deux coups, il s'assure que personne va rechercher Michelle et il s'assure que personne va soupçonner du fait qu'elle est disparue. C'est lorsqu'ils vont commencer à rechercher un endroit idéal pour disposer du corps de leur victime, dont le nombre ne cesse d'augmenter, qu'ils vont errer dans la ville de Snowtown et qu'ils vont tomber sur une banque désertée. Ils vont entrer à l'intérieur de la banque et décider d'entreposer des barils dans lesquels ils vont démembrer les corps de leur victime. Et ils vont mettre ces barils-là dans l'ancienne voûte de la banque abandonnée. Ce qui va plus tard valoir le surnom des Snowtown Murders parce que les corps étaient entreposés dans la voûte d'une banque abandonnée à Snowtown. Et c'est là qui vont disposer du corps de Michelle Gardiner, qui va devenir officiellement le premier corps dans le baril. Vanessa Lane est également une femme transgenre et elle a 42 ans et on l'a aussi présentée de la même manière sur le site, aussi connue comme son nom d'avant. Bon, là, je pense que vous avez compris, là, on voulait juste dénoncer notre outrance. Vanessa, c'est l'ex-copine de Robert Wagner. Ils étaient ensemble pendant un moment, et je cite, « pour garder un œil sur les activités pédophiles de la région ». Donc oui, vous avez bien compris, un assassin homophobe et transphobe et qui se permet de tuer des gens au nom de cette homophobie et de cette transphobie couche également avec une personne transgenre pour apparemment obtenir des informations. Make it make sense. Bref, le fait est que la relation va bon train jusqu'au jour où Vanessa Lane, elle va être accusée d'avoir agressé un jeune garçon. Et les accusations, bien sûr, sont portées par nul autre que Robert Wagner. Et là, ben, le quatuor meurtrier va décider de passer à l'action. Ils vont incendier la résidence de Vanessa, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'elle n'y était pas. Maintenant que sa maison est complètement brûlée, elle va déménager chez son petit ami qui s'appelle Thomas Gino Trevelyan. Et lui, il a 18 ans. Et il souffre de schizophrénie paranoïaque. La seule chose, c'est que Thomas y affirme haut et fort qu'il voulait vraiment pas que Vanessa déménage avec lui, ni même qu'elle ait une relation avec lui, et il se confie à John Bunting. Il va affirmer que Vanessa Lane, elle abuse de lui depuis des mois, et il faut savoir que Thomas, il est vraiment vulnérable, comme j'ai mentionné, avec son état mental assez instable. Il est vraiment facilement manipulable. Il y a des jours, il est persuadé d'être un soldat, de faire partie de l'armée. Il y a d'autres hier comme un fantôme qui se rappelle plus de qui il est, de d'où il vient. C'est excessivement facile pour n'importe quel prédateur de juste prendre avantage de l'état dans lequel il est. Et donc, lorsqu'il va avouer à Bunting qu'il est abusé par Vanessa, John ne va pas attendre ni une ni deux et il va orchestrer le kidnapping de Vanessa. Le 17 octobre 1997, John Bunting, Robert Wagner et Thomas vont kidnapper Vanessa Lane avant de l'amener dans un endroit isolé où ils vont la forcer à téléphoner à sa mère, à l'envoyer promener solidement avant de lui dire que ben elle déménageait à Queensland et qu'ils se reverraient plus jamais. On dirait qu'ils tentent encore d'éloigner les pistes. En fait, je vous confirme qu'ils tentaient encore d'éloigner les pistes de cette manière-là. Sauf que la mère de Vanessa Lane est pas niaiseuse, puis en plus, elle entend un des hommes dicter à Vanessa quoi dire. Donc lorsque l'appel est terminé, elle va garder de lourds doutes. Et ben les trois hommes, eux, de leur côté, vont s'armer d'une énorme pince et vont écraser les orteils de Vanessa complètement. Ils font ça pour lui soutirer toutes les informations nécessaires pour accéder à ses comptes bancaires, mais l'affaire, c'est qu'il n'y avait pas besoin. Elle était déjà en train de tout leur dire ce qu'il avait besoin de savoir. Ensuite, après avoir brisé l'entièreté de ses orteils avec la pince, ils vont l'assassiner par strangulation. John Bunting va se permettre de conserver l'automobile de Vanessa et aussi d'encaisser plusieurs de ses chèques de bien-être social. Il va démembrer Vanessa Lane avec l'aide de ses acolytes et elle aussi. Elle va être disposée dans les barils et enfermée dans l'ancienne voûte de la banque abandonnée. Le quatuor de la mort va donc prendre un peu sous son aile le petit Thomas, mais le paternalat fait vraiment pas long feu. Un jour, Thomas, il chasse un chiot avec un couteau pour l'assassiner. La seule affaire, c'est qu'il fait ça en plein jour, devant plein de gens, et là, ben, John Bunting décide qu'il est trop instable et que ben, ça met trop en péril leur opération meurtrière. Alors, il décide de l'éliminer. Thomas, il faisait tellement confiance à John Bunting et ses acolytes que ben il a reconfié l'entièreté des difficultés qu'il a ressenties face à sa schizophrénie et il s'est aussi confié sur le fait qu'il avait tenté à plusieurs reprises de s'enlever la vie. Donc, John Bunting va décider de pendre lui-même Thomas à un arbre et lorsque son corps est retrouvé, ben il y a personne qui se pose des questions et le coroner déclare automatiquement que Thomas s'est enlevé la vie. Ça fait un petit moment dont on en a fait mention, mais il faut se rappeler que parmi le quatuor de la mort, il y avait James Vlasakis et que c'est un des apôtres de Bunting. Ben Vlasakis, il va se lier d'amitié avec Gavin Porter et Gavin, il a 29 ans. Et quand il rencontre Gavin, il réalise que ça va être très facile d'en faire une proie. Gavin, lui aussi, a reçu un diagnostic de schizophrénie et en plus de ça, il consomme énormément. Consommation et santé mentale, on va juste dire que ça fait pas bon ménage. Lorsque Gavin va perdre sa mère, son monde s'écroule et il va se réfugier dans celui de la drogue. James Vlasakis va proposer à Gavin de l'héberger, ce que, ben, évidemment, il va accepter. Ensemble, ils vont consommer beaucoup d'héroïne et au début, le plan n'était pas d'assassiner Gavin tout de suite. Par contre, un jour, Gavin
oublie de ranger l'une de ses seringues après son injection. Et ben, de ce que j'ai compris, Bunting s'y est piqué ou s'y est presque piqué. Alors, il était vraiment fâché et il a décidé que l'heure de Gavin avait sonné. Alors que celui-ci était en train de dormir dans son auto pour une raison qui m'est assez floue, il va se faire complètement attaquer par John Bunting et James Vlasakis. Mais Gavin, il va réussir à mettre la main sur un tournevis qui va planter dans la main de John Bunting, ce qui va malheureusement fâcher encore plus John, qui va réussir à le maîtriser assez rapidement avec l'aide de James Vlasakis. Et il va mourir comme ça, complètement maîtrisé, terrifié, en train de se débattre, étranglé par John Bunting. On va démembrer sa dépouille avant, lui aussi, de l'entreposer dans l'un des barils de la voûte de la banque abandonnée. Il est dit que c'est Vlasakis lui-même qui a fait la sale besogne sous les ordres de John Bunting. Et John Bunting, apparemment, il était bien, bien fier de voir le petit gars suivre ses pas. Et donc, Vlasakis, il a adoré le sentiment que ça lui a procuré d'être autant validé. Alors, il décide qu'il est temps pour John de connaître la vérité. Son demi-frère, Troy Yude, a abusé de lui quand il avait 13 ans. Troy, il a juste 21 ans lorsqu'un probable mensonge de son demi-frère va lui coûter la vie. Alors qu'il fait dodo à point fermé dans le confort de son lit, le quatuor de la mort va se ruer sur lui et lui asséner de violents coups avant de le menotter, et c'est Vlasakis lui-même qui lui passe les menottes. Ils vont le traîner jusqu'à la salle de bain avant de continuer à le frapper, et ils vont utiliser la même méthode de torture qu'avec Vanessa, et ils vont prendre une grande paire de pinces pour écraser tous les orteils de Troy pour avoir ses informations bancaires. Mais tragiquement, encore une fois, c'était pas nécessaire. Le Troy avait déjà accepté, il avait déjà donné toutes les informations nécessaires. C'est juste pour torturer, juste comme ça. Pour, encore une fois, couvrir leurs arrières, ils vont forcer Troy à s'enregistrer pendant qu'il est en train d'affirmer qu'il va quitter les environs, qu'il veut plus jamais revenir et que plus personne ne veut jamais le revoir. Et après avoir sécurisé l'enregistrement, ils vont aussi assassiner Troy par strangulation et disposer de son corps de la même manière dans les barils, dans la voûte de la banque. Est-ce que vous vous souvenez de Mark Hayden? Comme Noémie l'a dit tout à l'heure, là, c'est celui qui participe pas au meurtre, mais qui s'occupe de disposer des corps par la suite. Et Mark Hayden, éventuellement, il va trouver une épouse qui s'appelle Elizabeth Hayden, qui a 37 ans. Et Elizabeth, elle a une sœur qui s'appelle Jody. Et Jody, elle a un fils qui s'appelle Frederick Robert Brooks, qui a 18 ans et que John Bunting n'aime pas. Pour aucune raison, il est persuadé que Frederick est un pédophile en devenir. Il arrête pas de dire qu'il doit intervenir et c'est ce qu'il va faire en septembre 1998. John Bunting et ses acolytes vont faire parvenir à Frederick une fausse lettre qui lui dit qu'il est accepté pour être formé pour devenir pilote dans l'armée de l'air australienne et, ben, étant donné qu'il est super content de la bonne nouvelle, il accepte quand John Bunting lui propose d'aller fêter ça. Comme la plupart des autres victimes, Frederick va d'abord se faire battre d'une violence extrême avant de se faire menotter et de se faire torturer pour avoir ses informations bancaires. Là, je vous prépare, là, les prochains détails sont vraiment graphiques, sincèrement, avancez d'une minute ou deux si vous avez l'âme sensible, parce que je pense que c'est l'un des pires meurtres qu'on a décrit dans ce podcast. Mais pour torturer Frederick Robert Brooks, on va lui insérer des cigarettes allumées dans les oreilles, dans les narines, et on lui insère des pétards dans la vessie. On va également lui injecter de l'eau de Javel dans les testicules avant de réutiliser la méthode de la pince. Par contre, on a connecté les pinces à un système électronique et chaque fois que la pince de métal entre en contact avec la peau de Thomas, ça déclenche un choc électrique dans l'entièreté de son corps. Il va décéder étouffé dans son cri de douleur. Littéralement, là, c'est comme mi-cri, mi-régurgie. C'est une horreur sans nom. J'ai des frissons à raconter ça. Je pense pas que j'ai besoin de prendre plus de temps pour souligner l'horreur. Je pense qu'on l'entend tous ici. On va se débarrasser de son corps extrêmement meurtri de la même manière qu'on le fait avec les autres, en petits morceaux, dans différents barils, dans la voûte de la banque. Lorsque Gary O'Dwyer va tomber dans la mire de John Bunting, il est déjà trop tard. Du haut de ses 29 ans et souffrant d'intenses douleurs chroniques et de troubles mentaux assez intenses, il est beaucoup, beaucoup trop vulnérable pour se douter que celui qui prétend vouloir lui offrir son amitié, c'est en fait un tordu meurtrier. Il se fait inviter dans une soirée avec le Quatuor de la Mort afin de prendre un coup et ils vont en recevoir plusieurs. On le torture pendant des heures et des heures jusqu'à ce que, ben lui aussi, il succombe à ses blessures et on va également disposer de sa dépouille dans les barils et on l'abandonne dans la voûte. Il va éventuellement venir aux oreilles de John Bunting qu'Elizabeth Hayden, la femme de Mark, a été mise au courant des meurtres commis par John et ses acolytes, et bien c'est tout ce qu'il fallait à Bunting pour décider de son sort. Un soir, après s'être assuré que Mark et les enfants étaient sortis de la maison, John va s'y introduire et y est accompagné de Robert Wagner. Ils vont suivre leur espèce de modus operandi, là. Ils vont traîner Elizabeth dans la salle de bain où ils la torturent, la battent violemment avant de passer une corde autour de son cou et de l'assassiner. On pourrait croire que ça aurait été la goutte de trop pour Mark Hayden, mais lorsqu'il se fait présenter le cadavre de sa femme, il éclate de rire. Il va même aider à démembrer le corps de sa propre épouse et en disposer lui-même dans les barils. La prochaine victime du Quatuor, c'est nul autre que David Johnson, l'autre demi-frère de James Vlasakis. Parce qu'avoir assassiné un demi-frère, ce n'était pas assez pour James. Il va décider que John a le droit de l'assassiner juste parce que John, il trouve que Dave, là, il soigne trop son apparence. Oui, vous avez bien entendu. David Johnson mérite la mort parce qu'il se nettoie trop. Le 9 mai 1999, Vlasakis va donc convaincre David Johnson qu'il faut absolument que les deux se rendent dans un entrepôt à Snowtown pour acheter des ordinateurs usagés à un très très bon prix. Et bien David, c'était sa petite corde sensible, c'était un passionné d'informatique, alors Vlasakis se savait très bien que David allait juste tomber dans son piège. Il va se rendre avec Vlasakis jusqu'à évidemment la banque abandonnée, il n'y a jamais eu de magasin. Et aussitôt entre-t-il dans la banque abandonnée, aussitôt est-il projeté au sol et attaqué par John Bunting et ses apôtres. Il va être battu et étranglé, là, directement devant la voûte dans laquelle on va entreposer son corps démembré. Et il est dit qu'en démembrant sa dépouille, Robert Wagner et John Bunting ont ressenti l'envie d'en consommer une partie, ce qu'ils ont fait.
Bunting est considéré comme la figure centrale de tous les meurtres et tortures et comme celui dont la personnalité a motivé les autres auteurs. Bien que les rapports psychologiques ne soient pas accessibles au public, le professeur psychiatre légiste Kevin Howells, qui a travaillé à l'hôpital Broadmoor au Royaume-Uni, a suggéré que le comportement de Bunting suggérait qu'il manquait d'émotion et de capacité à sympathiser avec ses victimes. Je pense qu'on va être pas mal tous d'accord avec cette affirmation-là. Howells pense que Bunting correspond au profil d'un tueur psychopathe qui tire sa satisfaction du contrôle de ses victimes. Comme j'ai dit tantôt, le corps de Clinton Trezis a été retrouvé en 1994, bien qu'à ce moment-là, aucun lien avec Bunting n'avait été établi. De même, la mort de Thomas en 1997, qui avait initialement été traité comme un suicide, c'est vraiment lorsque l'enquête va commencer qu'on va faire 1 plus 1 égale 2 et qu'on va réaliser que bien ce n'était pas un suicide et bien que la mort de Clinton Trezis était liée à Bunting et le Quatuor. Parlant de l'enquête, elle va vraiment commencer à prendre forme après que le frère d'Elizabeth Hayden a signalé sa disparition quelques jours après qu'elle ait disparu vers la fin de novembre. Son frère ne croyait absolument pas aux explications de son mari, Mark Hayden, sur sa disparition, qui semblait se contredire dans les différentes versions qu'il donnait, et le frère ne croyait pas non plus qu'elle partirait sans ses deux jeunes fils. La police a aussi trouvé suspect que son mari n'ait pas signalé sa disparition et ensuite ont enquêté sur la dite disparition. De janvier 99 à avril 99, l'enquête progresse lentement. La police soupçonne Mark Hayden d'être impliqué dans la disparition de sa femme et les liens entre Hayden, Bunting et les autres complices deviennent un point d'intérêt. Les enquêteurs commencent à examiner les interactions sociales du groupe et à repérer des indices de méfaits potentiels. Le 16 mai de la même année, une perquisition est menée au domicile de Mark Hayden à Smithfield Plains. La police découvre des documents incriminants liés aux victimes disparues et établit des connexions entre ces disparitions et plusieurs membres du groupe de Bunting. Cette découverte-là inclut des cartes de sécurité sociale et des dossiers bancaires appartenant à des personnes portées disparues. Comme Jess l'a dit plus tôt, le groupe de John Bunting utilisait ses identités pour continuer à percevoir les prestations sociales des victimes après leur mort. Ils ont aussi trouvé des listes de noms de victimes potentielles dont certaines avaient déjà été assassinées. Ces listes-là montraient que Bunting avait catalogué des cibles, souvent avec des annotations sur les raisons pour lesquelles il les avait choisies, principalement des accusations de pédophilie, d'homosexualité ou simplement parce qu'il ne les appréciait pas. Finalement, la police a trouvé des objets personnels appartenant à des personnes disparues, renforçant les soupçons que Hayden participait activement à la dissimulation des corps et au vol d'identité. C'est à ce moment-là qu'il commence à examiner ses liens avec John Bunting et Robert Wagner, qui ont également été impliqués dans les activités suspectes liées à la disparition d'autres personnes. En parallèle, James Flazakis, le jeune homme qu'on a parlé tantôt qui faisait partie du groupe et sous l'influence de Bunting, a commencé à coopérer avec les autorités. Flazakis fournit des informations cruciales sur les meurtres, les méthodes utilisées et les caches possibles des corps. Il révèle que plusieurs victimes ont été tuées et que leurs corps ont été dissimulés dans une banque abandonnée à Snowtown, une petite ville éloignée où le groupe pensait que personne ne découvrirait les cadavres. Armé de nouveaux éléments de preuve et d'aveux partiels de Flazakis, la police se concentre sur la banque de Snowtown. Le lendemain, soit le 17 mai 1999, la police fait une découverte macabre qui va marquer l'histoire australienne et le monde à tout jamais. Elle découvre une ancienne banque abandonnée à Snowtown où sont cachés plusieurs barils contenant des restes humains. C'est la première découverte physique des corps confirmant les soupçons des enquêteurs. Les corps sont dissous dans de l'acide, rendant leur identification extrêmement difficile. Comme Jess l'a mentionné plus tôt, c'est un bâtiment isolé, ce qui en faisait un lieu idéal pour Bunting et ses complices afin de cacher les corps. Le fait que le bâtiment soit rarement visité ou surveillé a permis aux tueurs de s'y rendre discrètement pour y déposer les corps. On pense que les corps ont été détenus dans plusieurs endroits d'Australie méridionale avant d'être transférés à Snowtown en 99. Le 20 mai 1999, John Bunting, Robert Wagner et Mark Hayden sont arrêtés à Adélaïde. L'arrestation survient après plusieurs jours d'enquête intensifiée et de découvertes macabres. Les suspects sont placés en garde à vue et la police poursuit l'exploration de la scène de crime. De mai 99 à août 99, l'enquête se concentre sur la collecte de preuves et l'identification des victimes. Plusieurs corps sont confirmés, tous victimes du groupe de tueurs en série. En mai 2000, les corps de 12 victimes au total sont identifiés et les détails sur les méthodes de torture utilisées par Bunting commencent à émerger grâce à des témoignages et des preuves matérielles. En avril 2001, James Flazakis, qui a coopéré avec les autorités, est formellement inculpé pour 4 meurtres. En échange de sa coopération, il obtient une réduction de peine et ses témoignages contre Bunting et Wagner vont être cruciaux pour les poursuites judiciaires. C'est en octobre 2002 que débute le procès de John Bunting et Robert Wagner au tribunal d'Adélaïde, le procès qui a duré 12 mois et l'un des plus longs et des plus complexes de l'histoire criminelle australienne. Les procureurs présentent des preuves horribles de torture, de manipulation, décrivant Bunting comme un sociopathe manipulateur qui croyait être en mission pour, entre guillemets, nettoyer la société de ceux qu'il percevait comme indésirables. En juillet 2003, James Flazakis est condamné à 26 ans de prison pour sa participation à 4 meurtres en raison de son rôle limité et de sa coopération avec les autorités. Le 8 septembre de la même année, John Bunting et Robert Wagner sont tous deux reconnus coupables de meurtres multiples. Bunting est jugé coupable de 11 meurtres, tandis que Wagner, lui, est jugé coupable de 10 meurtres, même s'il n'en a avoué que 3. Les deux hommes sont condamnés à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. En 2004, Hayden est reconnu coupable de 5 chefs d'accusation de complicité dans les meurtres, dont il en a admis seulement 2. Le jury n'a pas réussi à en venir à un verdict sur 2 accusations de meurtre contre Hayden et sur une autre accusation de complicité de meurtre, à la suite de laquelle la procureure principale, Wendy Abraham, a indiqué qu'elle demanderait un nouveau procès sur ces accusations. Le chef d'accusation final contre Bunting et Wagner, celui du meurtre de Susan Allen, a été abandonné le 7 mai 2007 alors qu'un jury n'a pas pu parvenir à un verdict. Mark Hayden, pour son rôle dans la dissimulation des corps, mais pas directement dans les meurtres, est reconnu coupable de complicité et condamné à 25 ans de prison. Les Snowtown Murders ont bouleversé l'Australie en raison de l'ampleur et de la brutalité des crimes. Le fait que les victimes aient été torturées avant d'être tuées a été l'un des aspects les plus choquants de l'affaire. Le public a eu du mal à comprendre comment un groupe de personnes pouvait être capable de tels actes. La découverte des corps dissous dans des barils d'acide dans une petite ville comme Snowtown a également renforcé le sentiment d'insécurité. Cette tragédie a brisé l'image de certaines parties rurales d'Australie comme étant sûres et tranquilles en révélant une violence cachée dans des communautés apparemment ordinaires. La petite ville de Snowtown, qui jusque-là était inconnue, est devenue tristement célèbre dans tout le pays et au-delà. La communauté de Snowtown a subi un impact psychologique durable, l'affaire ayant marqué à jamais la réputation de la ville. De plus, les meurtres ont mis en lumière des failles dans le système de protection sociale australien. Ça a conduit à des interrogations sur la manière dont le système permettait de telles fraudes sans que personne ne s'en rende compte pendant des années. En tout, le Quatuor de la mort a volé 97 000 à leurs victimes et aujourd'hui, ce montant-là équivaut à 235 000 $. Cette faille a conduit à une révision des contrôles de sécurité sociale dans le pays. Le gouvernement australien a dû revoir ses processus pour prévenir les fraudes et renforcer la protection des données personnelles, notamment dans les systèmes d'allocation. Réflexion après réflexion, l'affaire a mis en lumière la difficulté à protéger les personnes marginalisées contre les abus. Les victimes de Bunting étaient souvent des personnes marginalisées, des individus vulnérables, souffrant de maladies mentales, des personnes accusées faussement de pédophilie ou encore des personnes socialement isolées. Ça a conduit à une réflexion sociale sur la manière dont certaines parties de la population étaient invisibles ou délaissées, ce qui les a rendues vulnérables à des criminels comme Bunting. Économiquement, le procès de John Bunting a été l'un des plus longs et des plus coûteux de l'histoire d'Australie. Cette affaire-là a nécessité des millions de dollars pour la conduite des enquêtes, la collecte des preuves et le déroulement des procès. Il y a eu une réévaluation de la manière dont le système judiciaire gérait des affaires complexes impliquant des réseaux de criminels et de nombreux meurtres sur une longue période. L'affaire a également ouvert des discussions sur la manipulation psychologique parce que Bunting était un manipulateur charismatique qui contrôlait ses victimes, les incitant à participer au crime en jouant sur leur haine ou leur vulnérabilité. Encore une fois, ça a mené une réflexion sur le rôle du gourou criminel, similaire à d'autres cas où des leaders charismatiques manipulent un groupe pour commettre des actes atroces. On pourrait littéralement faire un épisode complet seulement sur l'impact des Snowtown Murders, mais en résumé, les Snowtown Murders ont laissé une empreinte profonde, non seulement en Australie, mais aussi à l'échelle internationale. L'atrocité des crimes, la durée pendant laquelle ils sont restés non détectés et la découverte macabre des corps ont choqué le monde entier et le choquent encore à ce jour. Cette affaire est devenue un symbole des dérives extrêmes que peuvent prendre les esprits criminels et de la manière dont des communautés vulnérables peuvent être négligées ou invisibilisées, ouvrant ainsi la voie à des prédateurs comme John Bunting. La question se pose, combien de crimes aussi horribles que ceux commis par Bunting et sa clique, combien de victimes innocentes, de vies brisées, faudra-t-il encore avant que nous prenions des mesures pour protéger nos communautés les plus vulnérables? Ce ne sont pas seulement des histoires de monstres isolés dans des coins sombres de notre société. Ce sont des vies réelles, des souffrances invisibles qui se jouent tout autour de nous. La vraie question, c'est qu'allons-nous faire maintenant que nous savons? On ne peut plus fermer les yeux. Chaque silence, chaque négligence, chaque acte d'indifférence pourrait bien nourrir le prochain Bunting. Le mal prospère dans l'ombre, mais c'est notre inaction qui l'y maintient.
Comme l'a mentionné Noémie, le procès à l'affaire des Snowtown Murders, c'est encore à ce jour l'une des affaires judiciaires les plus longues, les plus suivies, les plus complexes dans l'histoire de la justice australienne. Et en revenant sur ces meurtres horrifiants et horribles, John Bunting aura dit au La Station « Les pédophiles font des choses terribles aux enfants, les autorités n'y font rien, j'ai décidé de faire quelque chose, j'ai pris action. Merci. » Fin de la citation. On veut juste rappeler ici encore une fois que malgré le fait que John Bunting allègue que toutes ses victimes étaient pédophiles, la seule base de ses allégations, ce sont ses propres impressions. Justement, il croupit toujours derrière le barreau avec ses propres assumations et ses impressions à la Yatala Labour Prison dans le sud de l'Australie et Robert Wagner est aussi encore incarcéré. Par contre, je n'ai pas réussi à trouver dans quelle prison il croupit présentement. Mark Reddin, pour sa part, il a retrouvé une liberté partielle en mai de cette année, donc en mai 2024 pour ceux qui écoutent l'épisode en différé. Bien qu'il soit plus derrière les barreaux, il est dit que Reddin demeure sous haute surveillance et que ça va rester ainsi pendant longtemps. Comme Noémie a un peu mis la table, la notoriété des meurtres, ça l'a brièvement stimulé l'économie locale avec des touristes qui étaient venus des quatre coins du monde pour visiter Snowtown. Mais ça a aussi laissé une empreinte indélébile sur la ville. La ville a même tenté de changer de nom pour se dissocier de tout ça. Après la découverte des corps, la communauté voulait rebaptiser la ville Rose Town, mais il n'y a aucune vraie mesure concrète qui a été prise. En 2012, il y a un commerce local qui vendait même des souvenirs qui étaient liés au meurtre pour tirer profit de cette sombre notoriété. La maison qu'a louée John Bunting et où il a disposé des deux premiers corps de ses victimes à Salisbury Elle a été démolie par son propriétaire et il y a une autre propriété qui aurait habité ou fréquenté près du Murray Bridge qui, elle, a été vendue. Et pour ce qui est du bâtiment de la banque abandonnée, qui comprenait aussi une maison à 4 chambres,
what?
A été mis aux enchères en février 2012, mais il n'a pas été capable d'atteindre plus que la moitié de son prix de réserve de 200 000 $ parce que, ben, on s'entend, il n'y a pas grand monde qui veut acheter un lieu avec autant de vécu dramatique, tragique, de traumatisme. Après avoir organisé une visite payante qui a permis de récolter 700 $ pour un œuvre caritative, la propriété va finalement avoir été vendue en septembre 2012 pour 185 000 $ et ça, c'est tout en devise australienne, bien évidemment. Les nouveaux propriétaires y prévoient de vivre sur place tout en gérant une entreprise depuis l'ancienne banque. Et ils vont dire qu'il y a une plaque commémorative qui va être installée en mémoire des victimes. Par contre, on n'a pas encore été capable de trouver qu'est-ce qui est advenu de cette banque-là parce que j'imagine qu'ils veulent se dissocier de tout ce qui s'est passé. On leur souhaite le meilleur. Snowtown, qui était autrefois un village agricole tranquille, c'est maintenant un point de repère tristement associé aux Snowtown Murders. Et ben malheureusement, les touristes vont continuer de s'y rendre et vont continuer de venir pour les crimes. Ignorant aussi que ben la ville elle vit ses propres difficultés. Avec la popularité croissante des récits des vrais crimes de Snowtown, la ville a gagné en visibilité, mais cette attention-là, elle a juste ajouté à la pression sur la communauté locale qui était déjà marquée par la stigmatisation sociale et le déclin économique. Donc, en gros, là, la ville de Snowtown, elle ne veut pas toute la notoriété qu'elle a. Et malheureusement, il y a certaines personnes dans la ville qui profitent de cette notoriété-là pour attirer des touristes et même vendre des attrapes touristes, donc des souvenirs à l'effigie des meurtres. En 2011, il y a le film Snowtown qui va paraître sur les grands écrans et bien que les gens du milieu qualifient le film d'un chef-d'œuvre, la population, elle, reste assez réticente à le regarder et ceux qui l'ont fait disent qu'il est violent et graphique comme jamais. Nous, personnellement, on s'est abstenu d'y jeter un coup d'œil, mais libre à vous d'aller le visionner si jamais vous en ressentez le besoin, vous avez tout simplement la curiosité de le faire. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous écrire et nous donner vos impressions. Par contre, nous, je pense qu'on a assez entendu parler de John Bunting pour aujourd'hui.
Merci d'avoir été avec nous pour la deuxième édition des épisodes spéciaux Zodiac de la Vierge. La semaine prochaine, on va prendre une petite pause et ensuite, on va arriver dans notre saison préférée, la Spooky Season. Restez avec nous, on va juste prendre le temps de respirer un petit peu, mais on a tellement hâte de vous retrouver pour la Spooky Season. Je sais pas pour toi, Jess, mais moi, je suis vraiment excitée.
Je suis également vraiment excitée. Spooky Season, c'est toujours excitant. J'ai rien d'autre à rajouter.
Ah oui, non, en fait, je pense que j'ai quelque chose à rajouter. Merci d'avoir été là. On se retrouve bientôt.
Crémy cocktail.
Cheers, guys.
Chin, chin.